Qu'est-ce qu'il est beau ce chant, quel repos! Qu'est-ce qu'il est beau! Il est magnifique, il est fort, il est profond. Est-ce que vous avez imaginé ce matin en venir dans le repos de Dieu? Quel repos céleste, Seigneur, d'être à toi! C'est chouette hein, de venir, pas que là, mais de savoir qu'on est dans le repos, dans la paix de Dieu. C'est vraiment où ça fait du bien! S'il y a une chose dont on a besoin dans notre monde, c'est de repos. On court tout le temps. On a besoin de repos. Même en courant, on a besoin de repos quand même. Et ce repos, il est en Dieu. J'aimerais revenir ce matin sur ce que nous avons vécu, une grande partie de l'Église, le week-end passé, avec ce temps de travail sur la prière, pour tirer quelques remarques qui me semblent intéressantes pour la suite. Et d'abord, un constat que j'ai fait, que vous avez sûrement fait aussi, qui me semble important de rappeler, c'est que dans ce domaine particulier de notre relation avec Dieu, parce que c'est un domaine particulier, notre relation avec Dieu, la prière, domaine personnel, eh bien nous sommes relativement tous égaux. C'est-à-dire que, et c'était tout à fait visible l'autre jour, que nous avons tous à apprendre sur notre comportement, à nous laisser remettre en question, à nous laisser modeler. Et quand je dis tous, ça veut dire que, dans la salle, l'autre jour, il y avait tous les âges, à peu près. C'était un petit peu vaste comme âge. Il y a des gens qui étaient chrétiens depuis très longtemps, depuis des décennies, puis plusieurs décennies même. Et puis d'autres personnes qui étaient des jeunes convertis ou d'autres personnes qui peut-être n'avaient pas encore fait le pas. Et on était tous au même point et tous au même niveau à écouter ce que Dieu allait nous dire. À écouter comment Dieu allait s'y prendre pour nous parler. Et ça m'a interpellé, parce que c'est la même chose devant la croix. Un jour, ma maman, il y a très très longtemps, devait aller recevoir une médaille. Vous savez, les médailles, quand on a eu beaucoup d'enfants, des fois on reçoit des médailles. Autrefois en France, il y avait ça, mérite agricole ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Puis elle avait une trouille, parce que c'était un ministre qui devait la remettre, en fait c'était le préfet ou je ne sais pas quoi. Puis papa lui a dit, mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Mais n'aie pas peur, ce gars-là, tu te l'imagines en slip de bain. Il est comme un autre. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence. Y a aucune... Et devant cette réflexion sur notre relation avec Dieu, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas d'important ou de petit. On est tous petits, c'est ça, on a tous la même taille, tous le même âge, et on est tous soumis au même amour de Dieu. Ça veut dire aussi que tout autant que nous sommes différents, nous sommes tous autant repris. De la même façon, il y a une condition, si on veut, si on accepte de se laisser remettre en question par ce que Dieu dit, se remettre en question. Pour autant qu'on soit d'accord de laisser Dieu nous parler, à nous, individuellement. Dans la Bible, on parle souvent de parler. Du mot parler, écouter. Dieu parle et écouter ce que Dieu dit. Il y a 25 fois dans le Nouveau Testament une indication qui dit qu'on a deux oreilles pour entendre. 25 fois, c'est beaucoup. Vous avez des oreilles pour entendre. Si vous avez des oreilles, écoutez, entendez. Et dans la parole de Dieu, le mot entendre, c'est pas juste capter le son. C'est pas avoir un bruit de fond. Pas du tout. C'est surtout réfléchir, analyser, comprendre et finalement accepter ce qui nous est dit, c'est-à-dire le laisser faire chemin en nous. Et j'aimerais ce matin reprendre ce chapitre 6 de Matthieu, le relire avec vous, en tout cas une partie, pour en tirer quelques enseignements précieux. Alors il y a une foule d'enseignements, il faudrait 10 messages, 15 messages pour les faire tous. On va quand même s'arrêter ce matin. Vous êtes d'accord? Alors, je prendrai juste quelques petits points qui me semblent importants dans le début de notre texte. Et l'idée, c'est plutôt de continuer à nous mettre en route et à mettre en route notre réflexion pour voir ce que dit la parole de Dieu et pour voir comment on se retrouve dans cette parole de Dieu. Alors, on va lire une partie de Matthieu ici. Vous verrez que j'ai coupé un morceau que vous connaissez bien. Alors, on lit ce texte tel qu'il est là. C'est Matthieu 6, le verset 1. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 3, « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, et que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, et ça on l'a développé un petit peu samedi passé, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voilà donc comment vous devez prier. Et là, il y a le texte du Notre Père que chacun connaît. On passe le texte du Notre Père, et on arrive au verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes vos offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, dans ta parole, tu nous donnes beaucoup de conseils, beaucoup d'enseignements aussi. Nous voudrions que tu les fasses entrer jusqu'au plus profond de nos cœurs, Seigneur, et que tu les attaches à nous pour que nous puissions te suivre jour après jour. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que nous entendions ce que tu as à nous dire. Amen. Un premier point qui me semble important, et nous le trouvons dans notre texte, c'est de nous détacher de tout ce qui dans notre vie nous éloigne de Dieu. Et c'est justement précisément important pour notre vie de prière, de tout ce qui nous empêche de prier. Et on va le retrouver dans ce texte, vous allez voir. Le premier point, c'est notre image à nous, c'est-à-dire l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Alors ça peut nous paraître bizarre, peut-être ça va vous paraître dépassé, mais réfléchissez bien. La façon dont nous voulons que les autres nous voient, en quelque sorte notre look de chrétien, l'étiquette qu'on se met, l'habit qu'on revêt un petit peu, l'image que nous nous efforçons de véhiculer vers autrui, cette notion de l'image qu'on veut donner, de l'apparence peut-être, de se montrer, de se faire remarquer. 6 fois dans notre texte, on nous met en garde contre ça. 6 fois, dans un seul chapitre. C'est pas pour rien. Avoir pour but d'être vu. Pas d'être vu de Dieu, non, mais des hommes. Alors quand je dis des hommes, c'est ça peut être là, dans notre groupe. Être vu, être apparent, dans notre comportement de prière, avoir besoin d'être vu, d'être entendu peut-être, d'être reconnu. La mise en garde est forte au verset 2. Ne sonne pas de la trompette devant toi. Alors réfléchissons, est-ce qu'on a de temps en temps l'habitude de se mettre un petit peu en avant, de se montrer un petit peu. Ne sonne pas de la trompette devant toi, il manquerait plus que ça. Bon, Emmanuel, tu peux toujours jouer de la trompette, tu as le droit, mais c'est dans l'esprit, se mettre en avant pour, attention, j'arrive, c'est moi qui arrive, hein, c'est la procession. Vous savez, c'est un petit peu comme cette trompette qui, pendant la fête de Noël, annonçait César. La trompette s'est mise à sonner, les gens ont regardé, qu'est-ce qui allait se passer? On annonçait quelque chose. Ce n'est pas ce que Dieu veut dans notre vie de prière. Et il nous est dit, vous n'aurez pas de récompense devant Dieu. Dieu ne vous bénira pas dans ce comportement. La prière n'a pas pour enjeu d'être vue, entendue, glorifiée par les hommes, même s'ils peuvent la partager. Mais comme nous dit le verset 2, que Dieu soit glorifié dans la prière. Ça n'est pas pour faire plaisir aux hommes, aux frères et sœurs qu'on va prier. C'est pour nous approcher de Dieu, uniquement. C'est la raison principale de notre prière. À Dieu. Déjà à Dieu, et pour lui rendre gloire, pour l'adorer, pour le louer, pour le remercier, c'est ce qu'on a fait ce matin. Et il y avait des chants très profonds ce matin, dans ce sens-là. Alors, si tel est notre comportement, sachons qu'il n'est pas sain. Mais il n'est pas saint pour nous, mais il n'est pas saint pour les autres non plus. Il fausse les relations avec les frères et sœurs, forcément, qui ne sont plus des relations d'amour, mais des relations d'intérêt. Et dans ce cas-là, on va imposer une pression aux autres, une pression que nous n'avons pas à leur faire subir. Non seulement dans cette situation, nous ne sommes pas proches de Dieu du tout, mais nous pouvons même, par ce comportement, participer à mettre en danger d'autres en risquant de les éloigner eux-mêmes de Dieu, ce qui est d'autant plus grave. Et c'est important aussi dans notre comportement communautaire, dans notre venue au culte. Est-ce qu'on vient au culte pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, simplement? Ou est-ce qu'on vient au culte pour faire plaisir à Dieu et pour y retrouver notre Dieu? Entre autres, il n'y a pas que là qu'on le trouve, mais pour entre autres le retrouver ensemble. Mais réfléchissez à ce comportement. Pourquoi je viens, en fait? Parce que je dois venir, parce qu'on verra que je ne suis pas là, puis ça fait désordre. Ça craint un peu, hein? Ou bien est-ce que je viens parce que j'ai envie de venir, j'ai envie de retrouver ce repos, cette paix dont on a parlé ce matin, aussi dans ce temps ensemble. On vient y rejoindre Dieu avant tout. Comprenons bien que nos comportements n'engagent pas que nous, mais sont aussi porteurs d'un témoignage et d'une dynamique, soit positive, soit négative, dans les gens qui nous entourent. Et Romains 14, 13 nous dit « Pensez à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » On a aussi à réfléchir dans notre comportement. Un autre point important, c'est que ce texte met en relief notre comportement même dans notre vie et dans la prière précisément. Et ce texte nous reprend sévèrement dans son début à plusieurs niveaux. D'abord, en lien avec ce que nous avons vu précédemment, donc ce comportement de se montrer, d'avoir envie que les hommes nous voient bien, eh bien, il y a notre hypocrisie, il y a l'hypocrisie. Et vous savez que c'est un mot qui est souvent employé, l'hypocrisie, dans le Nouveau Testament. On parle souvent des pharisiens ou des scribes hypocrites. Mais trois fois dans ce texte, le Christ traite, j'ai cherché un autre mot pour mettre, mais c'est bien ça, il traite les gens d'hypocrites. Il traite les gens d'hypocrites. La définition de ce mot est claire. Simuler, feindre, jouer un personnage, un jeu de rôle. Jouer un personnage. Jouer. Jouer avec Dieu. Est-ce que la prière est un jeu? La prière n'est pas un jeu. Elle est une relation réelle avec Dieu. Avec l'hypocrisie qui est un acte volontaire, réfléchi, on n'est pas dans le réel, ni dans le vrai, mais dans l'imaginaire. En toute connaissance de cause. C'est-à-dire, c'est un comportement qui est voulu. Dans le Nouveau Testament, lorsque le Christ lui-même qualifie les pharisiens d'hypocrites, il dénonce par là leur malhonnêteté et leur mensonge. On a chanté ce matin « Je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus ». Voilà, le contraire de l'hypocrisie, renoncer à tous ces faux semblants. Et c'est important dans notre vie, pas rien dans notre vie de prière, mais dans notre vie en général, d'être réel, franc, simple, saint, totalement. Matthieu 23, 25, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez la coupe, le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. » L'hypocrisie, c'est une carapace extérieure que Dieu ne reçoit pas, qui va nous montrer beau peut-être, propre aux yeux des hommes, mais qui au contraire va, pour Dieu, cacher quelque chose de pas bon du tout à l'intérieur. La prière de l'hypocrite, est-ce qu'elle va plus loin que sa bouche? Dieu ne peut pas la recevoir puisque sur le fond elle n'est pas adressée à lui, parce qu'elle n'est pas vraie. Alors réfléchissons notre attitude aussi. L'hypocrite simule en quelque sorte la prière et Dieu ne peut en aucun cas la prendre au sérieux. Je ne saurais pas dire si Dieu entend vraiment cette prière, probablement, mais en tout cas, il est certain qu'il connaît le cœur de l'hypocrite et qu'il connaît que ce cœur n'est pas sincère et est en quelque sorte intéressé à recevoir quelque chose en retour de la part des hommes. Il est important de nous laisser interpeller et travailler par cette réflexion sur nos comportements, d'une façon générale, pour bien remettre à sa place ce temps de relation privilégiée entre nous et notre Dieu, qu'est le temps de prière. Avec l'hypocrisie dans notre texte, nous trouvons aussi l'orgueil qui empêche cette relation avec Dieu. L'orgueil y est intimement lié. Une estime exagérée de soi, un amour excessif de soi-même qui ne nous permette pas de laisser la place, de laisser la place à l'Esprit de Dieu en nous. On s'aime tellement soi-même, comment Dieu pourrait-il nous aimer si notre cœur est pris par notre amour pour nous-mêmes, notre manière d'être imbu de nous-mêmes? Comment Dieu pourrait-il y trouver une place? On est trop occupé à nous-mêmes, souvent, tourné uniquement sur nos propres intérêts, que nous ne pouvons nous intéresser ni à Dieu, mais non plus ni aux autres, nos prochains ou nos frères et sœurs. C'est important ces points dans notre prière, dans notre vie, dans notre comportement. Ainsi, nous intéressant uniquement à notre propre personne, nous ne lui laissons pas et plus la possibilité de travailler en nous et nous libérer de ses entraves à la communion. Et la communion, c'est ce qu'il souhaite de tous ses vœux, qu'il réclame de toutes ses promesses. Quelqu'un a prié pour remercier ce matin pour les promesses de Dieu. Mais les promesses de Dieu sont peut-être, dans notre monde, les seules promesses qui sont tenues. De toutes les promesses qu'on entend jour après jour. Et on n'est pas en période électorale en plus. Non seulement nos prières envoyées dans ce sens-là, n'atteignent pas leur destinataire, mais elles sont souvent vides et vaines. Et le verset 7 nous parle de vaines paroles. De vaines paroles. Vanité, tout est vanité, disait l'Ecclésiaste. Vanité, tout est vanité. La vanité, c'est répéter sans cesse les mêmes choses, les mots inutiles, illusoires. C'est le mot, la racine qui a donné le verbe jaser. Jaser, vous savez ? Il y a des gens qui jasent, on dit. Jaser, c'est le mot de la vanité, le verbe de la vanité. Ça vient d'une racine grecque qui s'appelle Batoléo et qui vient d'un auteur de poèmes qui a fait plein de poèmes, mais tous absolument ennuyeux. Des très longs poèmes, des poèmes. Il n'y avait pas de bouquin à l'époque, mais il a écrit plein de poèmes qui ne se terminent jamais. Et que personne ne lit parce qu'ils sont, rasoirs, quoi. Ils veulent rien dire pour finir. Ils n'ont pas de sens. La vanité, c'est un peu aussi comme une personne qui sait toujours tout sur tout. Ou qui laisse cette impression. En prenant souvent bien toute la place des autres aussi, dans la discussion, dans les rapports. Mais c'est aussi priver l'autre d'espace, de temps, en coupant le partage et la discussion qui sont riches, justement parce que l'autre, le vis-à-vis, qui est forcément différent de nous, il nous apporte incontestablement beaucoup, parce qu'il est différent de nous, justement. Et le verset 7 nous le dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme le font les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Notre prière ne souffre aucune vanité. C'est au contraire à la vision de Dieu, de cet homme créé à son image, être tout de relation et de sensibilité qu'est notre prière. Notre image, notre comportement, ne reflète-t-il pas ici tout simplement notre vécu et par là même notre foi propre? Et c'est là que nous devons nous interroger. Remettons-nous en question par rapport à notre texte. Avons-nous un tel manque de foi que nous pensions devoir noyer Dieu sous un tas de litanies, comme autant, vous savez, de ces moulins à prière qu'on trouve dans différentes religions, où il faut toujours qu'ils soient en mouvement, pour qu'il y ait toujours ce lien? Est-ce que Dieu serait dur d'oreille? Est-ce que Dieu n'a pas allumé son appareil acoustique? Il est vieux, Dieu. Hein, peut-être qu'il a un appareil acoustique, je ne sais pas, mais est-ce qu'il ne l'aurait pas allumé quand on lui parle? Est-ce qu'il serait carrément sourd? Est-ce qu'on pense qu'il n'est carrément sourd, qu'on soit tellement obligé de rabâcher pour que ça rentre bien? Ne serait-ce pas plutôt le contenu de notre prière qui ne trouve pas sens à ses yeux souvent? Avons-nous tellement peu de foi en ses réponses et donc en fin de compte en lui-même que notre prière est devenue une routine presque dénuée de lien avec lui? Où est notre foi véritable? Où est notre force? Ce ne sont pas des accusations, ce sont autant de questions qu'il est important de se poser et de se reposer. Quelle que soit notre vie de prière et notre temps de prière. Lorsque vous demandez quelque chose à un ami, vous lui téléphonez pour demander quelque chose, pensez à quelque chose de matériel, tout simple. Est-ce que tu pourrais me prêter ton truc à raclette? Oui, quelque chose de tout simple. Quelle est la réponse que vous attendez? D'abord, quelle est la question que vous posez? Elle est très claire. Est-ce que tu peux me prêter? Ou est-ce que tu viens manger à la maison dimanche? Est-ce que tu peux me prêter ça? La question, on sait la poser claire. La réponse, elle va être claire. Est-ce que ce n'est pas un peu pareil avec notre prière? Est-ce que les questions que nous envoyons vers Dieu, les soupirs que nous exprimons vers Dieu, sont aussi clairs et aussi simples pour aussi obtenir une réponse claire et simple? Pourquoi, dans nos prières, nous agissons souvent autrement? Simplement, et sommes-nous peut-être plus compliqués? Peut-être sommes-nous aussi bloqués? C'est Dieu que nous devons suivre. C'est lui que nous devons prier. Regardez ce que nous dit le verset 14. Tu veux juste le mettre, Philippe? En deuxième page, merci. Le verset 14 en dit long sur notre comportement devant les hommes. Nous ne pouvons pas avoir deux visages. Un pour le visage laïque et un pour le visage religieux. Un pour la semaine et un pour le dimanche. Autrefois, il y avait les habits du dimanche puis les habits de la semaine. Vous vous souvenez de ça, quand vous étiez petit, peut-être? Moi, j'avais les habits du dimanche, il ne fallait pas les mettre la semaine. Hein. Voilà, il n'y a pas deux comportements. Hein, et on voit ces deux comportements. Dieu nous voit dans notre vie avec nos actes et nos pensées. Si vous pardonnez aux hommes vos offenses, votre Père, qui est dans les cieux, vous les pardonnera, les vôtres. Mais si vous ne pardonnez pas, il y a cette deuxième partie dans le verset, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Il en va de même dans la simplicité et la véracité de notre vie de prière. Frères et sœurs, en lisant et en relisant ne serait-ce que les quelques premiers versets de ce chapitre 6 de Matthieu, nous ne pouvons que constater que le premier obstacle à la prière, c'est nous. C'est nous. Ce n'est pas notre voisin de gauche qui bouge ou qui fait du bruit ou je ne sais pas, ou quelqu'un qui gêne au fond. Non, le premier obstacle, c'est nous. C'est nous. Examinez-vous vous-même, de Corinthiens 13, 5, pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, personnellement. Le constat de notre état de créature pécheresse n'est donc pas brillant. Et nous comprenons tout le chemin à parcourir pour tendre à la sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Matthieu 19, 24, vous connaissez ce verset, je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Quand vous dites ça à un enfant, il rigole, quand vous lui expliquez bien. Mais il ne dit pas qu'il n'est pas possible de passer dans le trou de l'aiguille. Il dit qu'il est plus facile. Il est plus facile. Nous, on ne peut pas y arriver, c'est sûr. La suite du verset, c'est Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, tout cela est impossible, mais à Dieu, cela est possible. Dieu va le faire passer le chameau dans le trou de l'aiguille. À combien plus forte raison notre prière, il exaucera puisqu'il l'a promis. Dieu nous enseigne dans ce passage, non pas pour nous démolir, nous casser, nous briser et nous dégoûter de l'envie de prier, mais bien plus pour nous apprendre à mettre en lui toute notre confiance et à simplement dans nos prières lui vider notre cœur et nous approcher de lui. Il veut nous rendre à l'écoute, faire de nous des êtres de relation, mais de relations véritables, positives, en marche, en avant, avec lui, pour la vie éternelle. Nous attacher à lui, nous rapprocher de lui, nous approcher de lui, et écouter ce Dieu de proximité, d'intimité, de dialogue, de prière. Dieu nous veut vivants, vivants, hommes et femmes de prière, optimistes et joyeux. Ce texte comporte un grand nombre de points positifs. J'ai relevé juste un ou deux points négatifs, hein, vous avez vu. Mais il y a un grand nombre de points positifs. Et c'est important de le relire. Qui nous donne autant de repères pour notre vie de relation et de prière avec notre Père. 10 fois dans ce texte, il nous est dit « Votre Père, votre Père, votre Père ». Alors je relève brièvement quelques points je vais dire positif, qu'on pourrait sortir justement de ces défauts qu'on aurait. Le contraire d'hypocrite, le contraire d'hypocrite. Être soi-même naturel, simple, vrai. Est-ce que ça ne serait pas un petit peu une définition de la sainteté? Simple, naturel, vrai devant Dieu. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Saint devant Dieu, nu devant Dieu. Les mains ouvertes. Je viens, continue ce cantique. Jean 4, 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Vérité devant Dieu, vrai devant Dieu. À l'opposé de l'orgueil, l'orgueil qui rapproche tout à nous, Dieu est proche de nous. Dieu est proche de nous. Il nous veut des êtres de relation proches de lui. Si on est trop proche de nous-mêmes, on ne pourra pas être proche de lui. Dieu veut des êtres avec qui il va pouvoir partager, à qui il peut faire confiance. Matthieu 28, 19 envoie les disciples, le Christ envoie les disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que j'ai dit et prescrit. » Ok, travail. Et après, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Il est près de nous tous les jours. En lisant ce verset, je me demandais, mais moi, personnellement moi, est-ce que je recherche à être tellement près de lui tous les jours? Est-ce que moi je recherche cette intimité avec mon Père quand je le prie? Qu'il soit aussi près de moi, que moi je sois près de lui. Apocalypse 3, 20, voici je me tiens à la porte et je frappe. C'est notre porte à nous ça, hein. C'est aussi la porte de notre chambre qui était fermée tout à l'heure. C'est la porte de notre maison, c'est la porte de notre cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce qu'on imagine une fois voir le Christ sonner à notre porte à l'heure du repas et dire « j'y ai une place pour moi ». Sous quelle forme va-t-il se présenter? Peut-être pas sous cette forme-là, mais Réfléchissons à ça. Est-ce qu'on l'invite volontiers à notre table? Est-ce qu'il est présent là? Est-ce qu'on va jusqu'à là dans notre vie de prière? Écoutez, entendre Dieu qui frappe à notre porte pour notre joie de l'entendre, notre joie de lui ouvrir la porte, notre joie de le recevoir sous notre toit, dans notre cœur, dans notre maison, pour qu'il partage notre table et notre repas, en famille. Il a simplement donné sa vie pour ça. Simplement. Ézéchiel 13, verset 2, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Job 22, 22. Ça m'a plu, ça. Job 22, 22. Facile à retenir. Job, pourtant, hein, reçoit de sa bouche l'instruction et met dans ton cœur ses paroles. Reçois de sa bouche l'instruction et met dans ton cœur ses paroles. Frères et sœurs, c'est avec ces mots pleins d'optimisme, de joie, de foi, en rendant gloire à Dieu pour sa grâce de chaque instant, que j'aimerais conclure en vous disant, relisez et méditez, prenez le temps de vous arrêter sur chaque mot de Matthieu 6. Prenez le temps de lire, par exemple, le petit fascicule que vous avez reçu avec ces 100 textes. Là, prenez le temps de lire ces textes de base que vous avez reçus. Ce sont les bases solides qui nous rappellent et qui nous rappelleront que nous investissons dans du solide. C'est un bon investissement. Et puis cet investissement, il est bon dans la durée. Il est tellement bon que la durée n'en voit pas le bout. Elle est éternelle. Un investissement pour l'éternité. Malgré tout, au-delà de tout, et avant tout, faire confiance à Dieu. Et dans l'Ecclésiaste, vous savez, cet homme qui regarde le monde en détail et qui trouve qu'il est pourri, de chez pourri, qu'il n'y a rien de bon, qu'il a tout essayé, il a testé chaque chose. Et c'est toujours un échec dans tout ce que propose le monde. L'Ecclésiaste nous dit, et j'ai beaucoup aimé ça, avant la scène justement, « Jette ton pain sur la face des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Jette ton pain à la face des eaux, fais ce pas de confiance, fais cette confiance, avec le temps, l'éternité, tu le retrouveras. » Amen. Nous voulons partager ce repas, et bien sûr en pensant à ce repas que le Christ a instauré, j'ai un peu aussi envie de le voir qui frappe à la porte et qui vient nous inviter, lui, dans sa maison. Il a dit qu'il frapperait à notre porte, mais là, il nous invite chez lui, à sa table, simplement. Simplement, si nous avons fait ce pas de lui dire oui, je jette tout ce qu'il y a à moi, tout ce qui m'appartient, qui m'éloigne de toi, à la face des eaux, parce que toi, tu me le redonneras au centuple, avec tes promesses. Et j'ai envie de voir ce Dieu qui s'est tellement approché de nous qu'il nous a, lui, invités à manger avec lui. Alors, bien sûr, ce sont des symboles, symboles de sa mort, mais symboles aussi de sa vie et de son retour et de sa résurrection. S'il n'avait pas été crucifié et qu'il n'était pas mort pour nous, il ne serait pas non plus ressuscité. Et nous n'aurions pas de but à notre foi. Alors j'invite Craig et Rebecca à venir et nous voulons simplement prendre cette scène, ce pain, ce repas, simplement en pensant que c'est Dieu qui nous y invite et personnellement que notre Seigneur Jésus-Christ prie pour nous, intercède pour nous jour après jour, tous les jours de notre vie. Il est près de nous, il nous veut près de lui. Nous allons prier pour ce corps brisé. Rebecca, si tu veux prier pour ce corps brisé.
Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu nous invites à rentrer chez toi, Seigneur, et j'aime, Père, être dans ta présence. J'aime pouvoir me sentir tout près de toi parce que c'est là que je suis bien. Alors, Seigneur, merci pour cette invitation qui est tous les jours, qui est chaque matin. Merci pour ce corps qui a été brisé pour tous nos péchés, Seigneur. Tu nous connais si bien. Tu nous vois et Seigneur, merci parce que tu es là et parce que tu nous pardonnes à travers ton corps, ton sang. Tu as tout effacé, Seigneur. Tu as tout pris sur toi. Alors, Seigneur, merci. Et en retour, je veux te louer, t'adorer et te dire merci parce que tu es mon sauveur. Tu es la vie. Tu es mon Seigneur. Je te loue, Seigneur. Amen.
De même, nous voulons prier aussi pour cette coupe. Cette coupe, c'est la, comme le dit la parole, la nouvelle alliance en son sang. Alors, bien sûr, c'est l'image du sang du Christ qui a coulé pour nos péchés. Mais c'est l'image aussi de cette alliance que Dieu fait avec nous et de son retour bientôt, de sa venue pour nous chercher, pour que nous puissions vivre avec lui.
Merci Seigneur qu'on peut être là ce matin, se rappeler aussi que tu as donné ta vie pour nous, que ton sang a coulé sur ce croix. J'aimerais dire aussi plus loin que 3 jours plus tard, tu es ressuscité. Et tu es vivant aujourd'hui, assis à la droite de notre Père. Et puis on peut dire victoire. Amen.
Prenez, mangez, prenez et buvez. C'est le Christ qui vous y invite. Voilà, pendant qu'on finit de ramasser les petits gobelets, j'aimerais partager avec vous les annonces concernant la vie de l'Église cette semaine. Plusieurs activités cette semaine. Demain, Fan Club à 14h, Conseil d'anciens à 19h30, mercredi, chorale, jeudi, réunion de prière ici, important, bien partager ce temps ensemble. Samedi, groupe de jeunes, dimanche, café thé, 9h30, et puis notre culte à 10h30. Et puis, j'annonce déjà pour la suite, le 19 février, mardi 19 février, notre Assemblée Générale annuelle. Pas d'autres annonces d'activité ?
Journée féminine,
samedi prochain. À où ? Il y a la pub au fond ?
En Suisse.
D'accord. Donc, les mesdames qui vous êtes inscrites, arrangez-vous entre vous, là, sérieusement. Voilà. Alors, les femmes qui ne sont pas encore inscrites peuvent encore le faire. OK. Juste donner un petit détail. On avait donné de la pub dimanche passé pour le 14 février, pour un Saint-Valentin, 14 février. Hein. On ne mettra rien à l'église ce soir-là, si quelqu'un voulait y aller. On ne mettra pas d'études bibliques, quelque sorte, ce soir-là, si ça tombe le même jour. Hein. Ça libère. Hein. OK. Non, mais il faut penser à ce genre de truc aussi, c'est important. Emmanuel avait une info à nous faire passer.
Bonjour à tous. Simplement, vous vous souvenez, on a fait un club d'été au mois d'août de l'année passée. On a le projet d'en faire de nouveau un cette année. Et on a plusieurs questions, donc on a besoin de vos prières, parce que on a entendu que la commune ne prêtait jamais la salle au mois d'août, donc on s'est dit qu'on allait essayer de mettre le camp plutôt au mois de juillet. On a regardé, il y a des camps de la JAB, donc on veut pas les mettre en même temps que les camps de la JAB, donc il y a à peu près 2 semaines où ça pourrait jouer, mais on a posé la question à la commune avant Noël, et on n'a toujours pas de réponse. Alors vraiment que vous puissiez prier pour ça, pour qu'on puisse avoir une réponse, puis pour que le Seigneur nous montre quelle semaine choisir, parce qu'il faut qu'on se décide. pour pouvoir prévenir les enfants le plus vite possible, pouvoir prévenir les parents parce qu'ils doivent réserver ces dates. Et puis j'aimerais déjà vous lancer un appel. C'est pas un petit groupe qui peut gérer un camp comme ça. C'est un grand groupe. L'année passée, beaucoup de gens de l'église, si ce n'est toute l'église, s'étaient vraiment motivés pour ce projet. On a vraiment envie que ça soit encore le cas cette année. On va aussi en faire part à la pastorale. Donc commencez déjà à y penser, commencez à regarder. Donc pour l'instant, ça serait soit la semaine du 8 juillet, soit la semaine du 15 juillet. Alors vraiment, on prie pour avoir une réponse, mais essayez déjà de regarder un petit peu. Et puis on compte sur chacun de vous, et ce n'est pas seulement les jeunes, c'est même les personnes plus âgées. On a besoin de vous aussi dans la prière, on a vraiment besoin de tout le monde. Voilà, merci. Et puis on a eu notre club hier matin, et ça aussi, merci à chacun. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le portent dans la prière, merci aussi à vous.
Voilà, on peut aussi prier pour qu'il y ait du beau temps, ça peut aussi se faire. Hein, ça peut. Merci de prendre ce temps aussi dans la prière, chacun chez soi aussi. Pensons à nos malades, pensons à Roby spécialement, pensons à Anna aussi, qui est... peut-être dans sa dernière semaine à Toulouse, on ne sait pas comment ça va s'articuler, on ne sait pas encore pour l'instant. Pensons à la suite, pensons à Jean-Michel, on s'est engagé personnellement, vous le savez, on l'a dit, hein, personnellement, à prier pour Anna, pour Jean-Michel, pour la famille. Donc il ne faut absolument pas relâcher notre prière et continuer pour que tout puisse aussi se faire en son temps. Voilà, je n'ai pas d'autre annonce à faire, je vous invite à vous lever et... Je vous lirai la fin de quelques versets qu'on a à la fin de la première épître de Pierre. Et c'est vraiment pour chacun de nous, pour notre vie de tous les temps. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de tout. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermant la foi, en sachant que même les souffrances sont imposées à vos frères aussi dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous avez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous rendra inébranlable. À lui la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.